Bienvenue à l'écoute de l'émission La vie en abondance, présentée par la mission du plein évangile de Lorraine. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
C'est une nouvelle fois mon plaisir et mon privilège de vous accueillir pour ce temps de partage du meilleur message qui existe au monde, en l'occurrence le message de l'évangile. L'évangile, qui signifie bonne nouvelle, n'a jamais rien perdu de sa puissance et de son actualité. Veuillez donc nous prêter toute votre attention et soyez bénis à travers ce programme. En cette période de Pâques, il est tout à fait indiqué de s'arrêter un moment et de réfléchir sur la signification de la mort de Jésus-Christ. Il y a quelques années, le film « La Passion du Christ » de Mel Gibson a envahi les salles de cinéma du monde entier et a fait déplacer un nombre incalculable de personnes. Ce compte-rendu émouvant des 12 dernières heures du Sauveur du monde a touché des millions de spectateurs, y compris de nombreux musulmans. C'est sur recommandation d'un collègue pasteur que mon épouse et moi sommes allés voir La Passion du Christ. C'était un après-midi en semaine et il n'y avait donc pas de foule ce jour-là. Toutefois, ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des autres visiteurs étaient relativement jeunes. Je ne peux pas décrire de façon adéquate l'émotion qui m'a saisi quand tout au commencement du film, le passage biblique suivant du prophète Ésaïe a apparu sur l'écran. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait prononcé ces paroles quelques 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, et c'est sa mort de substitut qu'il a décrit avec une précision et une éloquence sans pareille. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur une autre partie de cette fameuse prophétie. Elle se trouve au verset 6 et déclare ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La première partie de cette prophétie décrit notre condition spirituelle à nous tous. Le Seigneur nous compare à des brebis errantes, égarées. L'image de la brebis égarée est très populaire dans les Saintes Écritures. Elle parle de chacun de nous, peu importe notre nationalité ou notre couleur de peau. Nous nous sommes éloignés du divin bercail et surtout du divin berger. Nous nous sommes écartés du droit chemin qui est aussi l'étroit chemin. Par nos péchés, nos mauvais choix, notre désobéissance et notre rébellion envers Dieu et sa sainte parole, nous avons perdu notre communion avec notre Créateur. Par nature, notre état spirituel est celui de la mort. La mort spirituelle, ce qui est une autre façon de dire que nous étions séparés d'avec Dieu, et donc dans un état de perdition. Ne nous faisons pas d'illusions, monsieur. Même le meilleur d'entre nous est concerné par cette image de la brebis égarée, errante. Par nature, nous sommes tous des pécheurs, et en conséquence, nous sommes morts aux yeux de notre Dieu. Morts et perdus, voués au châtiment éternel. La Bible en parle de nombreuses fois. Écoutez par exemple la déclaration de l'apôtre Paul qu'il a faite aux chrétiens d'Éphèse. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Elle n'est pas très élogieuse, cette description de notre état spirituel naturel. Quant à la prophétie d'Ésaïe que nous sommes en train d'examiner, elle ne dit pas seulement que nous étions tous égarés comme des brebis, elle souligne également que chacun suivait sa propre voie. En faisant cette déclaration, le prophète a certainement tapé dans le mille. Ésaïe fait d'abord allusion à nos différentes conceptions religieuses et philosophiques concernant Dieu, le péché, le jugement éternel et l'au-delà. Que d'idées et de conceptions erronées circulent dans le monde ? Chacun a sa petite religion à lui. Nous nous sommes construits notre Dieu sur mesure, selon nos préférences. Quand, par exemple, on n'aime pas l'idée d'un jugement à venir où il faudra rendre compte à Dieu de ses actes, on supprime simplement cet article. Au fil des années, je me suis entretenu avec probablement des milliers de personnes, et chaque fois je suis étonné de la faculté de l'homme pécheur d'inventer sa propre religion. Oui, monsieur, Ésaïe n'a nullement exagéré quand il a prophétisé que chacun suivait sa propre voie. Mais par suivre sa propre voie, nous devons également comprendre que nous avons préféré nos voies à celles de Dieu. Les voies de Dieu sont droiture, vérité, pureté, sainteté et justice, tandis que les nôtres se trouvent à l'opposé de cette liste de perfection. Dans les chapitres d'ouverture de son épître aux Romains, l'apôtre Paul brosse un tableau général de l'homme. Vous n'éprouverez probablement pas de peine à vous y retrouver d'une manière ou d'une autre. Le voici notre portrait à nous tous, ne serait-ce que partiellement. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Avouons-le, qu'il n'est pas très flatteur le portrait que la Bible brosse de nous. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons confesser que nous aussi, nous avons chacun pour sa part suivi notre propre chemin, un chemin qui mène à la mort. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais de la mort spirituelle et éternelle. Sur le plan purement naturel et logique, nos perspectives étaient donc tout autre chose que réjouissantes. Mais nous n'avons pas encore parlé de la deuxième partie de notre passage tirée du prophète Ésaïe. La voici, cette deuxième partie. C'est en quelques mots qu'elle résume l'Évangile, le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. En effet, après avoir déclaré que nous étions tous égarés comme des brebis, et que chacun suivait sa propre voie, le Seigneur a ajouté par le biais de son porte-parole Ésaïe, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Par lui, nous devons comprendre Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour devenir le Sauveur de l'humanité. Nous devons impérativement nous poser la question, que s'est-il réellement passé à la croix en ce jour de Vendredi Saint, il y a bientôt 2000 ans? Pour vraiment pleinement apprécier cet événement unique qui a changé le cours de l'histoire humaine, nous devons comprendre certains principes divins. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans ses trois dimensions, mort physique, mort spirituelle, mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour, a voulu sauver l'humanité. Il a voulu nous épargner le terrible châtiment qu'est l'étang de feu et de soufre. Pour y arriver, il ne pouvait pas simplement fermer ses yeux sur nos péchés et nous dire « Passons l'éponge, j'oublierai vos fautes ». En agissant de la sorte, Dieu aurait transgressé sa propre loi qui stipule que le péché doit être puni. Si Dieu voulait donc être juste envers lui-même, tout en manifestant son amour et sa miséricorde envers nous, hommes et femmes perdus, il n'y avait qu'une seule possibilité. Quelqu'un d'autre devait payer à notre place. Un remplaçant, un substitut devait se charger de notre pénalité. Quelqu'un devait mourir pour nous afin que nous puissions vivre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas, patrie de mon épouse, se trouvaient sous l'occupation allemande. Une connaissance à nous était mobilisée. Un soir, lors d'une attaque ennemie, son contingent a dû se rendre au front. Au moment où il a voulu monter dans le camion militaire, un de ses amis lui a proposé d'aller à sa place. Il n'est jamais revenu. C'est avec une certaine émotion que notre connaissance nous a partagé cet incident. Il était vivant, parce que quelqu'un d'autre avait pris sa place. Ami auditeur, c'est exactement ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort pour nous, afin que nous puissions vivre, vivre éternellement. Lui, le Fils de Dieu innocent, a pris nos péchés sur lui, afin que nous n'ayons plus besoin d'en subir les conséquences terribles. Oui, c'est exactement comme le prophète Ésaïe l'avait prédit. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cela me rappelle ce magnifique passage tout au début du film « La Passion du Christ » de Mel Gibson. Le voici encore une fois, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les théologiens parlent ici de l'échange divin. Le Seigneur Jésus a pris notre place afin que nous puissions participer dorénavant à sa vie divine. Il a été séparé d'avec son Père, afin que nous puissions jouir de sa présence durant toute l'éternité. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu causée par nos péchés et notre rébellion, afin que nous puissions bénéficier de la paix avec Dieu et de la paix de Dieu. Oui, c'est exactement comme Ésaïe l'avait si bien prédit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je bénis mon Sauveur et mon Seigneur pour ce magnifique échange divin. Chers amis, il ne faut surtout pas que tout cela reste une simple théorie, une connaissance purement cérébrale. Si vous voulez bénéficier du pardon de vos péchés, si vous voulez échapper à la colère de Dieu à venir, oui, si vous désirez être réconcilié avec votre Créateur, il est indispensable que vous entriez dans une relation personnelle avec lui, et que vous vous appropriiez le pardon de vos péchés et le don de la vie éternelle par un acte de foi. Peut-être éprouvez-vous le désir de faire ce pas important et de donner accès à Jésus dans votre vie. Vous pouvez le faire en répétant après moi cette prière de tout votre cœur. Seigneur Jésus, de tout cœur merci de ce que tu es mort sur cette horrible croix pour mes péchés. Je crois que tu as souffert à ma place, que tu as pris sur toi le châtiment que je méritais. Je te confesse tous mes péchés et toutes mes désobéissances, et je te prie de me les pardonner en ce moment même. Je t'ouvre mon cœur, afin que tu y entres pour y faire ta demeure, et je me détourne de mes mauvaises habitudes. Merci pour ton merveilleux salut que tu m'offres gratuitement. Avec ton aide, je te suivrai, et je m'efforcerai de te plaire en faisant ce qui est agréable à tes yeux. Amen. Rien ne vous empêche de lire pour vous-même ce célèbre chapitre 53 du prophète Ésaïe, si du moins vous avez une Bible. Laissez-vous interpeller par ce magnifique passage biblique. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même longueur d'onde, que votre journée soit ensoleillée par la présence de Dieu.
C'était La Vie en Abondance. Nous espérons que cette émission vous a fait grand bien. Faites-la connaître autour de vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.